chrétienne, elle semble représenter beaucoup plus que de la chance pure. Elle semble prédestinée, comme si notre vie était guidée par une force inconnue. Cette conscience-là, c'est la première révélation.
Elle me regarda avec l'air d'attendre une réponse, mais je suis resté muet.
Tu ne vois donc pas? Nous recommençons à sentir, comme dans notre enfance, qu'il y a un autre côté de la vie à découvrir, un autre processus qui se déroule en coulisses.
On a déjà beaucoup écrit sur ce que t'appelles la première révélation.
Oui, mais ne te méprends pas. En fait, le prêtre a spécialement insisté là-dessus. Ce qu'il y a de nouveau, ce sont les chiffres. Le manuscrit annonce que le nombre de gens conscients de ces coïncidences doit croître énormément au cours de la sixième décennie du XXe siècle.
Vraiment?
Nous nous mettrons à nous demander, mais globalement, quel est le sens caché de la vie humaine?
Ah oui.
Et c'est cette question qui va permettre aux autres manifestations de se révéler à notre conscience.
Et quand nous aurons connaissance des autres révélations, notre culture changera?
C'est ce qu'a dit le prêtre.
Tout ça me paraît bien sophistiqué pour un manuscrit écrit en l'an 600 avant Jésus-Christ.
Je sais, mais le prêtre m'a dit que les érudits qui ont traduit le manuscrit étaient absolument certains de son authenticité. Avant tout parce qu'il est rédigé en araméen, la langue même pour l'essentiel de l'Ancien Testament.
De l'araméen en Amérique du Sud? Mais comment a-t-il pu arriver là à cette époque?
Le prêtre n'en savait rien.
Est-ce que son église reconnaît l'authenticité du manuscrit?
Non. Il a même dit qu'une très large majorité du clergé souhaitait la disparition du manuscrit. Rien que d'en parler pouvait être très dangereux pour lui.
Est-ce qu'il a précisé combien de révélations il contenait?
Non, faute de temps. Nous sommes tombés d'accord pour que je le retrouve chez lui l'après-midi même, mais il n'y était pas lorsque je suis arrivée. Je ne l'ai jamais revu.
Est-ce qu'il t'a montré un exemplaire du texte?
Non, je n'ai rien d'autre que les notes que j'ai prises.
Qu'est-ce que tu vas faire à propos de ce manuscrit?
Je m'en étais doutée. Te voilà prise au jeu. Je t'avais prévenue. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire?
Sans doute voir si je peux en apprendre plus, je suppose.
Bon. Si tu trouves quoi que ce soit, appelle-moi.
Nous nous sommes dit au revoir et elle s'en est allée. Je l'ai vue disparaître après m'avoir fait un petit signe. J'ai filé vers mon 4x4 et j'ai pris le chemin de la maison. La soirée avait été passionnante, mais je demeurais sceptique quant à la possibilité d'une transformation culturelle radicale. Cela paraissait idéaliste et un peu délirant. Après tout, les hommes vivaient sur cette terre depuis bien longtemps. Pourquoi aurions-nous soudain accès à une vision nouvelle de l'existence à cet âge avancé de l'histoire de l'humanité? Je savais aussi que l'arrivée de Charlène était justement l'une des coïncidences dont parlait le manuscrit. Une coïncidence trop parfaite pour être accidentelle. Ce vieux grimoire pouvait-il dire vrai? Le monde avait-il su, malgré ses faiblesses et son cynisme, produire une vraie masse décisive de gens conscients de ces coïncidences? Les humains étaient-ils maintenant capables de comprendre le vrai but de la vie? Et que serait le grand secret? Les révélations encore à découvrir dans le manuscrit nous le livreraient-elles? J'étais placé devant un choix. À cause du manuscrit, je sentais qu'une nouvelle direction s'ouvrait à moi. Mais que faire? Je rentrai dans la maison et téléphonai à l'agence de voyage. J'obtins un billet pour le Pérou. Il y avait par hasard une annulation dont je pouvais profiter avec réservation d'hôtel à Lima. Je pouvais en plus bénéficier d'un prix intéressant, mais il fallait partir dans 3 heures. J'arrivais à l'aéroport juste à temps pour prendre mon billet et embarquer pour Lima. La vague de confiance en moi que j'avais ressentie faisait place à toutes ces questions. L'idée de transformation culturelle et le contenu de la première révélation me paraissaient irréalistes et fous. Peut-être serait-ce un voyage inutile, conclus-je, à un gaspillage d'argent, mais il n'y avait pas de mal à ça. Je fermai les yeux et ressentis un vague vertige lorsque l'avion atteignit la vitesse de décollage et s'envola vers une épaisse couverture nuageuse. À l'altitude de croisière, je remarquai un homme avec des lunettes rondes qui parlait avec le steward.
Merci en tout cas, j'avais pensé, comme vous faites très souvent cette ligne avec le Pérou, que vous aviez entendu parler du manuscrit.
J'étais stupéfait. Je me dirigeai vers lui. Pardonnez-moi, je vous ai entendu mentionner un manuscrit, parliez-vous?